9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, il est quelle heure? Il est 11h03 dans 17 minutes. C'est l'une d'entre vous qui sera avec nous en direct, puisque c'est le jeu de Noël jusqu'au 24. Le coffre de Noël que vous pouvez ouvrir en envoyant coffre par SMS au 732-16. C'est pas compliqué. Si vous êtes tiré au sort, vous avez d'ores et déjà gagné la Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 et les deux volants Switch. Ça, c'est acquis. C'est acquis, sauf si vous voulez que j'ouvre le coffre. Et là, à l'intérieur du coffre, la PS5, la PlayStation Classic Mini, c'est ou la PS5 ou la PlayStation Classic Mini, celle de 94. Ou peut-être la tirelire, les chèques du Père Noël qui iront de 500 à 2500 €. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous vous contentez de la Nintendo Switch avec le jeu et les deux volants? Ou est-ce que vous tentez le coffre? Vous savez qu'il y a trois personnes raisonnables ici. Thomas Porcher, Marianne Soubré et moi-même, on dit Nintendo Switch, ça suffit. Puis il y a deux casse-coups. Ici, qui veulent tenter le diable, Olivier Truchot et Mehdi Guézard, qui disent faut y aller, faut ouvrir le coffre. Vous ferez comme vous voulez. Vous envoyez coffre par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Allez, il est temps d'accueillir notre invité.
RMC, les grandes gueules.
On accueille Loïc Le Floch Prigent, l'ancien patron de Gaz de France, ancien patron d'Elf aussi. Bonjour monsieur Le Floch Prigent.
Bonjour.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont téléchargé l'application EcoWatt et qui flippiez? Vous flippez, vous avez peur de savoir si on va avoir des coupures d'électricité ou pas?
Pas du tout, c'est vraiment hors sujet pour moi, c'est pas le sujet. Voilà, mais... donc c'est pas le sujet, donc vous parlez du sujet coupure. Moi ce qui m'intéresse c'est le prix de l'électricité et le fait qu'effectivement aujourd'hui... beaucoup de mes mandants, puisque je suis à la fois chef d'entreprise de 6 entreprises et également président de la branche industrie du mouvement éthique, disent ben il va falloir qu'on arrête de produire, de produire nos produits, non pas l'électricité, compte tenu du prix de l'électricité. Donc aujourd'hui, moi j'ai des entreprises autour de moi, dont les miennes, qui allons payer à partir du 1er janvier 2023 3, 5 à 6 fois plus l'électricité. Et par conséquent, aujourd'hui, Enedis est en train de... c'est RTE sont en train de dire c'est merveilleux, il y a moins de consommation. Oui, bien sûr, les industriels se préparent à arrêter un certain nombre de choses, à faire autrement. Et par conséquent, c'est une très mauvaise nouvelle pour la France.
C'est une mauvaise nouvelle parce que moins de consommation, ça veut dire moins de croissance.
Moins de production.
Moins de croissance et moins d'industrie.
Ça va pas bien.
Et moins d'industrie et moins de travail. Et donc, je vois pas en quoi se réjouir, comme l'a fait ce matin... comme on fait ce matin les gens de RTE, que la consommation baissait, quelque chose. Alors c'est l'idée que parce que les gens prennent une douche au lieu de deux, ça fait quelque chose. Non, c'est peanuts, c'est complètement idiot cette histoire de dire aux individus arrêtez d'aller aux toilettes, arrêtez d'aller à la douche, arrêtez, etc. Restez chez vous. Tout ça est stupide. C'est de l'ordre du pourcent, c'est pas le sujet.
Mais sur le site Atlantico, vous avez dit quand même, et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous inviter, vous avez dit que ce plan, il n'y avait pas de plan en fait.
Il y a une politique de communication. Alors communication un peu désordonnée parce que les uns disent il faut se préparer, les autres disent il n'y a pas de panique. Vous voyez, c'est un peu désordonné, mais c'est de la communication, c'est pas de l'action. L'action, c'est comment est-ce qu'on remet en fonctionnement la production d'électricité. C'est ça le sujet. Bon, alors comment les centrales nucléaires qui sont arrêtées reprennent? Et normalement, toutes les centrales nucléaires, depuis le plan Messmer, le 1er janvier, sont en fonctionnement. Toutes les ans, elles sont le 1er janvier, sont en fonctionnement. Là, il y en a un certain nombre qui ne sont pas en fonctionnement.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
On pose la question, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé qu'on a fait de l'anti-nucléaire systématique et on a pris, à mesure, en faisant l'anti-nucléaire, des précautions telles qu'on a effectivement mis en difficulté une partie du parc nucléaire. Et donc, je dis, arrêtons de prendre des précautions inutiles, arrêtons de faire peur sur ces engins qui fonctionnent quand même depuis un certain temps, et prenons-les normalement, c'est-à-dire sans avoir tous ces gens qui veulent utiliser la peur et utiliser de mauvais arguments pour arrêter les centrales nucléaires.
Mais vous dites
j'ai donné comme exemple en particulier l'arrêt sur corrosion sous contrainte, où je dis en tant qu'industriel, il y en a une qui pose un problème, j'arrête une, je répare l'une et puis ensuite je vais les 6 autres, je vais les réparer les unes après les autres
en
faisant
marcher.
Mais arrêter tout en même temps, c'est stupide, c'est alors je dis C'est stupide en tant qu'industriel. Si jamais moi, en tant qu'industriel, lorsque j'ai 7 machines pareilles, je dis il y en a une qui va pas, j'arrête les 7, ben je dépose le bilan, c'est tout.
Mais vous dites qu'on vit quand même un moment exceptionnel parce que les dernières grandes coupures d'électricité datent du siècle dernier et n'avaient pas l'importance qu'elles pourraient avoir.
78.
Ouais, 78. Ouais, et vous dites quand même que début décembre, la France a acheté énormément d'électricité chez ses
voisins. Absolument. Donc il y a eu des journées là aujourd'hui elle a acheté 3 fois plus de ce que j'ai dit dans le papier.
Ah oui. Hein,
donc
et c'est, pourquoi
bah, parce qu'il a fait un peu plus froid.
À quel prix?
Il a fait un peu plus froid à un prix très élevé.
Ah oui. À combien le coût de production? Parce que nous on le produit pour à peu près je crois 55 euros.
Vous voulez, enfin autour de 50 euros et on l'achète aujourd'hui 300 600. On a eu des parts à 1000 et on a eu le 4 avril 2022, on l'a acheté à 3000.
Parce qu'on est au 4 avril 2022.
Pendant une ou deux heures. Vous voyez, et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas les coupures. Le sujet, c'est le prix de l'énergie.
Oui.
Pourquoi est-ce que un produit que l'on fait à 50 euros se retrouve dans l'industrie, la mienne? Hein, à 600 euros, il faut que je passe un contrat sur 12 mois ou 24 mois. Et c'est complètement incohérent. C'est-à-dire que je suis attaqué par les gens qui considèrent que le marché de l'électricité, c'est merveilleux. On a tarifé l'électricité. Monsieur Marcel Boiteux, pendant des années, a indiqué l'ancien président d'EDF, ancien directeur général d'EDF, un des plus brillants économistes français, en particulier sur l'énergie, qui est toujours vivant, qui a une centaine d'années aujourd'hui. Et il avait bien expliqué. Et cette histoire de tarif marginal, c'est qui conduit à un prix d'électricité très élevé, c'est-à-dire c'est le dernier électron vendu qui fixe le prix de tous les autres.
Et ça
ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que
Thomas Porcher.
Ça ne peut pas marcher.
Ça ne va pas avec la construction de ces 20 dernières années de libéraliser les marchés de l'énergie, de faire un grand marché unique européen où on s'échange comme ça nos quantités d'énergie, et plutôt que d'avoir une politique énergétique pour chaque pays, parce que historiquement, par exemple, l'Italie n'a pas de nucléaire, parce qu'elle a fait le choix de ne pas en avoir. Nous, on a fait le choix d'en avoir beaucoup, beaucoup. On est celui qui avons le plus de réacteurs par tête au niveau mondial, hein, pas par habitant. C'est un choix politique. Et à un moment, on s'est dit, alors tous ces choix politiques qui sont différents, on va en faire un grand marché. Ce qui fait qu'à la fin, quand on s'échange effectivement cette électricité, c'est la tarification marginale, donc c'est la tarification des centrales à gaz qui se coûtent plus cher avec le conflit ukrainien. C'est quand même des choix politiques qui ont été faits ces 20 dernières années, qui ont été idiots.
Attention, Monsieur Porcher, ce n'est pas le conflit ukrainien qui a fait augmenter de façon importante le gaz, ce n'est pas vrai. Ça a commencé il y a 2 ans et demi, et tout le monde a vu que le prix du gaz a augmenté. Pourquoi ? Parce que il fallait absolument pour les Américains que leur gaz de schiste puisse aller sur le marché international, et pour cela, il fallait que le prix du gaz russe monte. Et par conséquent, on a fait monter le prix du gaz russe et le prix du gaz. Donc nous, industriels, nous avons vu il y a 2 ans et demi, le prix du gaz commençait à augmenter. Nous avons dit attention. Et le marché de l'électricité est un marché qui est indexé sur le gaz en coût marginal, comme l'indique Monsieur Porcher. Et on a dit attention. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Ce marché de l'électricité est artificiel. Il est arbitré par 5 personnes à Leipzig. Après avoir été en France avant sur PowerNext, il est à Leipzig aujourd'hui. Et ce marché de l'électricité est une stupidité. Stupidité théorique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un marché de l'électricité global sur des réalités aussi différentes que celles de l'Allemagne et de la France.
Pourquoi
en particulier.
Il veut réformer.
Moi, je dis, il faut changer.
Exactement.
C'est complètement différent.
Mais qui l'a fait?
Ce marché d'électricité est impossible à tenir parce qu'il est artificiel. Tout ce qui est artificiel, à un moment, chute.
Exactement.
Et nous sommes dans l'artificiel.
Bravo.
Alors, Marianne Soubré, maître
oui,
Soubré.
Vous êtes industriel et vous-même, vous disiez que vous seriez impacté en tant qu'industriel.
Je le suis.
On voit qu'il y a énormément de commerçants même qui se demandent s'ils ne vont pas mettre la clé sous la porte.
C'est les entreprises aussi.
Voilà,
pareil.
Absolument.
20% des boulangers, 20% des bouchers doivent fermer le 31 décembre.
Voilà, et nous sommes tous devant ce constat. Et donc moi, ma question, c'est à votre avis, qu'est-ce que l'État pourrait faire éviter...
On enlève le marché d'électricité comme l'ont fait les Portugais et les Espagnols.
Ah oui.
Les Portugais et les Espagnols sont à 115 euros le mégawattheure. Moi, je suis à 600 dans mon entreprise. Je suis concurrent d'eux. Pourquoi? Alors que j'ai l'électricité.
Parce que j'ai l'Union
produite
européenne
en France.
Trucs, voilà.
J'ai l'électricité la moins chère.
À 50 euros ici.
La moins chère produite. On est produit à 50. On peut racheter à 115.
Mais c'est pas grave. Non, mais l'idée, mais pas à 50.
Mais
pas de 50 à 600.
Mais 3, 5, 6, c'est pas possible. C'est ça la situation.
Ce dont vous parlez, c'est du court moyen terme.
Non, c'est du court terme, c'est-à-dire les Espagnols et les Portugais, on fait ça, c'est fini.
On peut le faire parce que
quel est le problème? Quel est le problème?
Ah oui, non, mais je vous pose la question. Moi, je connais pas ce marché-là.
On veut pas s'acheter.
Je connais pas ce marché-là.
On a peur.
Les Allemands se fâchent bien avec nous.
Voilà.
Les Allemands se fâchent bien avec nous. Pourquoi on se fâcherait pas les Allemands? Les Allemands sont en train de dire, il faut continuer à ce que la France paye l'électricité des Allemands. En quoi est-ce que moi, industriel, j'ai besoin de financer les Allemands pour faire ce que je fais? Et lorsque je paye 600 euros le mégawattheure, je paye les Allemands. Ben non, j'ai pas envie de payer les Allemands. Les Allemands payent pour moi.
Expliquez pourquoi est-ce qu'on paye les Allemands.
Alors, on paye les Allemands parce que les Allemands se sont mis en tête de faire, en mensant, de l'électricité dite verte avec les éoliennes et le solaire, alors que c'était 25%, et que quand ils ouvraient des centrales éoliennes et des centrales solaires, en fait, ils ouvraient des centrales à gaz et à charbon.
Oui.
Donc c'est ça qui s'est passé. Bon. Et en réduisant le nucléaire, et en disant, vous devez arrêter le nucléaire. Donc ils ont manœuvré pendant des mois pour qu'on arrête le nucléaire, en disant que ça faisait du CO2, ce qui est faux. Et donc on s'est retrouvé complètement en difficulté. Et on a effectivement trop diminué le nucléaire depuis... Donc il faut absolument qu'on dise, vous les Allemands, vous êtes bien gentils, mais nous, on a une électricité pas chère, par conséquent, nous allons continuer à la donner à nos industriels, à nos commerçants, pour pas cher, et ça on peut le dire aujourd'hui.
On
peut pas faire du 100% nucléaire. Voilà, aujourd'hui, il y a une loi qui est en ce moment discutée à l'Assemblée sur les énergies renouvelables.
On n'est pas 100%.
Non, bien sûr, mais on veut développer le solaire et l'éolien, est-ce qu'on a raison?
Oui, c'est ce qui est stupide, puisque le solaire et l'éolien sont uniquement pour les périodes où il y a du vent et du soleil, c'est intermittent, donc par conséquent, ça dérègle notre réseau qui n'est pas fait pour ça, petit un, et deux, surtout, le sujet que nous avons là, et dont on est en train de parler, qui est l'hiver, en hiver, il n'y a ni vent ni soleil. Mmh. Et c'est statistique, c'est sur des 18 ans qui viennent de s'écouler, et c'est ce que les Allemands ont observé. C'est pas nous qui observons, les Allemands. C'est pour ça qu'ils sont inquiets sur le gaz et le charbon, parce qu'ils ont besoin du gaz et du charbon, puisqu'ils ne peuvent pas fonctionner.
Et le paradoxe, hier au soir, l'électricité allemande, c'est l'électricité qui est fabriquée à base de charbon.
Mmh. À base de charbon et de gaz. Voilà. Et nous récoltons à Paris, vous avez un nuage actuellement en particules fines, qui viennent de l'augmentation de la centrale à charbon. Ça, on n'en parle pas, on essaie de dire que c'est le diesel, pas du tout, c'est les particules fines, puisque les petits vents d'est que nous avons nous amène à un nuage de particules.
Simplement pour savoir, hier à 18h30, les éoliennes françaises, les 7000 éoliennes françaises produisaient 3% d'électricité. Ouais. 3% d'électricité hier. Hein. Donc ça veut dire que si on
c'est un bon jour. C'est un bon jour. La veille, c'était 1%.
Voilà, hier on était
vous avez pris la
meilleure
haute.
Et voilà, on était à 3% et en fait, il en faudrait 119 000 sur le de ces éoliennes si on voulait arriver à un niveau de production qui soit satisfaisant.
Mais non, ce ne sont pas les mêmes électrons. Alors oui, monsieur Marchal, attention.
Non, mais je vous écoute.
Attention, l'électron des éoliennes, c'est un électron intermittent. Par conséquent, une fois quand il ne produit pas,
donc,
les hommes politiques disent on fait les éoliennes de Saint-Nazaire, ça va faire 750 000 foyers servis par l'électricité. C'est faux, c'est un mensonge technique, ce n'est pas vrai. C'est 750 000 foyers, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que le foyer breton qui est à côté de Saint-Nazaire, il est alimenté par tout autre que les centrales éoliennes. Et quand il y a du vent, à ce moment-là, ça part partout. Ça va pas en Bretagne. Ça n'a rien à voir. Le nombre de mensonges techniques qu'il y a à ce sujet. Et alors là, maintenant, on dit, l'urgence, on voit bien, c'est de sortir de ce marché et d'éviter. Vous pouvez pas vous en sortir. Mais il faut mesurer les risques. Et si jamais on n'a pas envie de prendre de risques quand on est industriel, on change de métier. Donc on prend des risques et on dit, voilà le risque qu'on prend. Et aujourd'hui, le risque du circuit secondaire, ce circuit qui a conduit aux 7 arrêts sur corrosion sous contrainte, ce risque-là, il est nul. Il est nul, c'est le circuit secondaire. Ben c'est le circuit secondaire. Alors on est là, c'est nucléaire. Non, le circuit primaire,
il
y a combustible.
Il faut quand même refaire l'histoire.
Il faut refaire l'histoire.
Après Fukushima, pardon, mais si vous étiez pro-nucléaire sur un plateau, on vous montrait du doigt en disant vous n'avez rien compris, vous êtes ringard, vous n'êtes pas dans
mode la fin. Moi, je m'en fous d'être ringard. Je vous dis simplement que ça fait. J'ai commencé à travailler. J'adore travailler sur le nucléaire, sur le pétrole, etc., avec un certain monsieur Pierre Guillaume, qui était ministre ministre qui était au CEA et qui a bâti l'industrie pétrolière française, et que je me suis bien dans mes baskets, et je lui dis, je suis pas un gars, non. Et il faut regarder les risques. Et si jamais vous avez 100 000 morts parce que vous avez des coupures d'électricité ou vous avez un certain nombre de gens, après vous viendrez dire que je suis un gars. Non, il faut produire. Il faut produire de l'électricité. C'est ça la priorité.
Merci.
Et si jamais on n'a pas compris ça, on n'a rien compris au film qui est en train de se dérouler, et on continue effectivement à vouloir faire de l'énergie intermittente qui ne sert à rien pour l'instant, qui ne sert à rien sur 2023, sur 2024, sur 2025. De toute façon, le temps que les recours soient enlevés, que la loi passe, etc., vous n'aurez pas d'énergie, même si vous voulez. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment faire redémarrer le plus tôt possible la production nucléaire.
Merci Loïc Le Floch.
Merci à vous.
Patron de GDF. Merci d'être passé par les grandes gueules. Quelle heure est-il ? Il est 11h20 pile. Il est temps de se tourner vers le 32-16 et vers la Haute-Garonne. C'est Anouar qui est avec nous. Bonjour Anouar.
Bonjour.
Mon cher Anouar, c'est vous qui avez été tiré au sort pour le jeu de Noël, le coffre de Noël. Donc, vous connaissez le système, vous connaissez le principe. Vous avez d'ores et déjà gagné la Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 et les deux volants Switch. D'accord. Est-ce que vous les gardez ou est-ce que vous tentez le coffre ?
Ah non, moi je suis joueur, moi c'est le coffre, c'est le coffre.
C'est le coffre. Bon, bah, très bien. Eh ben, je vais prendre le coffre, mon cher Anouar.
Vous n'êtes pas un épicier comme Alain, Marianne et Thomas.
J'espère que vous ne serez pas déçus. Hein. Alors,
dans tous les cas, je ne serai pas déçu.
Alors, on y va. Hop, j'ouvre le coffre. La boîte de Noël. Noël. Attention.
Attention.
On va voir d'abord. La PlayStation Mini, la classique Mini.
Allez. Voilà.
Et il n'y a pas d'argent ?
Non, il y a juste
voilà.
ça.
J'ai et
que
voilà.
ça. Honteux. Que dans la direction.
Non, c'est pas grave, je suis très content. Vous
mais, ah, voilà. Ah, ben, voilà ce qui arrive quand tu écoutes les conseils d'investissement de Mehdi.
Mais écoutez, Anouar.
On avait quand même trois fois que le coffre ne tombe pas dans le GG.
Oui, c'est facile. Pour ça, moi, j'ai plus confiance. Je te dis, moi, je suis épicier, faut jouer prudent.
Je vois un tir que tu
préfères jouer. Mais
Anouar, vous avez voulu jouer, vous avez pris vos risques, comme disait l'autre, et vous les assumez. C'est très bien, mon cher Anouar. Dans tous les cas, la classique mini arrive dans les jours prochains. Passez de bonnes fêtes, voilà. Anouar.
Si tu veux mettre 5000 euros dans Eco Mouton, là, c'est le moment.
Et puis, à bientôt.
Application qui s'appelle Eco Mouton.
Allez, dans un instant, GG Sat & Match autour de la pénurie de main-d'œuvre, toujours là, en plein mois de décembre. Est-ce que finalement c'est uniquement la faute
des
patrons qui payent mal? On vous attend au 32-16.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui un trio composé du chef d'entreprise Mehdi Guézard, l'avocate Marianne Soubry, le professeur d'économie Thomas Porcher. C'est l'heure du GG Sat & Match.
RMC
GG 7 et match.
En ce moment, on est de nouveau en période de tension en ce qui concerne la main-d'œuvre. Tous les métiers, tous les ministères, toutes les chambres de commerce et d'industrie, bref, alertent sur le manque de bras. Les emplois saisonniers, par exemple, en ce moment, on manque de plusieurs milliers de postes. On connaît le bâtiment, on connaît l'hôtellerie, on connaît la restauration. La santé, bien sûr, les cantines scolaires, on manque de personnel, chauffeurs de bus, chauffeurs de tram, chauffeurs de métro, chauffeurs routiers, chauffeurs livreurs, vendeurs, vendeuses, pour Noël, par exemple, aussi, on manque de livreurs, on manque d'emplois, de CDD pour la période des fêtes.
Alors, pour ajouter qu'on manque de médecins, on manque d'infirmières.
Bien sûr, donc voilà, dans ces cas-là...
C'est bien aussi, parce que livreurs, ok, mais on manque de médecins aussi dans ce pays, on manque de profs.
J'ai dit secteur de la santé.
Les médecins, c'est pour d'autres raisons, hein. c'est pas pour les salaires.
Oui, mais
on en revient toujours à une seule et même question, celle des salaires. Est-ce que c'est la faute des patrons mauvais payeurs ?
Mais bien sûr qu'ils vont
oui.
dire ça.
Oui, attends. Oui ou non ? On a une équipe qui dit oui, patrons. Marianne et Thomas. Une équipe qui dit non, Mehdi et Olivier. La parole à Monsieur Porcher. 60 secondes, on écoute ton raisonnement.
Alors, c'est très, très, très clair qu'il y a eu un problème de salaire, mais qui ne concerne pas que la France, hein, qui concerne toute l'Europe. Moi, je me souviens que Mario Draghi, quand il était à la BCE, il avait fait son grand moment, ça date de 2018, hein, sur le fait que les salaires n'étaient pas assez élevés en Europe. Qu'il y a des économistes qui sont plutôt proches de Macron dans leur pensée, comme Patrick Artus qui avait écrit un livre le jour quand les salariés se révolteront. Donc la question des salaires, elle est bien avant le Covid dans la tête des gens. Parce que vous voyez, on nous a dit qu'il fallait surtout pas augmenter les salaires pour x y raison en bas de l'échelle, mais en haut les salaires se sont très fortement envolés. Et le vrai problème ces 30 dernières années, c'est que les salaires du haut se sont envolés quand les salaires du bas ont progressé, mais ont progressé beaucoup plus faiblement. Quand le Covid est arrivé, il y a eu un arrêt, puis maintenant vous avez l'inflation qui est là, et donc qui baisse le pouvoir d'achat de la majorité des salaires. Et donc moi j'arrive à comprendre qu'il y ait des gens aujourd'hui qui se disent, il y a des secteurs où on est beaucoup trop mal payé, et ça ne vaut plus le coup d'aller travailler dans ce secteur-là. Et c'est compréhensible. Et vous savez, dans la restauration, il y a eu la baisse de la TVA, ça devait augmenter les salaires, etc. On s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas. Macron a baissé les cotisations sociales, ça devait augmenter les salaires et les gens devaient être contents. Ça n'a pas été l'effet escompté. Donc là, il y a une vraie question que l'on doit poser sur la question salariale, notamment les salaires en dessous du salaire médian de 2000 euros.
Alors, la question des salaires est-elle centrale? 32-16, c'est vous qui venez départager les deux équipes. Mehdi.
En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup d'imperfections dans ce que dit Thomas. Et je sais qu'on a perdu le débat. Je le dis à Olivier. Hier soir, quand j'ai répondu à la question à Naïs, et Marianne est témoin et Thomas est témoin, je l'ai dit, je vais perdre. Parce que, en fait, en France, on a toujours ce problème avec l'argent, avec les patrons, où les patrons sont très très riches, où les employés sont très très pauvres, où les employés sont exploités par les grands patrons, et on est considérés tous comme des patrons d'entreprise du CAC 40. Non. Nous ne sommes pas des patrons d'entreprise du CAC 40, nous sommes des petites PME, PMI, où on essaie de se lever le matin, de se débrouiller, où on se prend des crédits sur la gueule, où on met notre maison en caution solidaire, ou notre appart en caution solidaire, parce que si la société se casse la gueule pour avoir un financement, eh ben, il faut que tu sois caution solidaire en tant que gérant, que des fois, c'est des gérants, et la plupart des gens, c'est des gérants non salariés, où s'ils gagnent pas de pognon à la fin de l'année, eh ben, ils sont pas payés, ils ont pas de dividendes à la fin de l'année, voilà. C'est pas, en fait, les patrons, c'est pas le patron du CAC 40 total qui se tape 400 millions, 4 millions, 5 millions d'euros. C'est pas
jamais ça. Jamais dit ça, Mehdi.
Non, mais en fait,
non, mais jamais dit ça.
Mais quand on me dit que c'est les patrons qui payent mal, c'est-à-dire que s'il y a. Alors, on va aller plus loin dans ton raisonnement. On dit comme quoi c'est parce que les gens ne sont pas assez bien payés. Mais le patron, quand il paye, il faut savoir une chose, Thomas, et tu le sais, t'es prof d'économie, c'est que le patron, il paye deux fois ce qu'il a écrit sur la fiche de paye.
Bien sûr.
C'est aussi simple que ça.
Au-delà d'un certain montant. Parce qu'il y a, il y a quand même le CICE, etc. Au-delà d'un certain montant.
Oui, mais pour les grandes entreprises, c'est eux qui en ont bénéficié le plus.
C'est professeur
d'économie. Thomas, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. C'est les grands groupes qui ont profité du CICE. Donc, c'est pas les petits PME. Donc, excuse-moi, Alain. Mais quand moi, je paye un salarié à 2000 balles.
Tu sors 4000,
il m'en coûte 4000.
Ouais, bien sûr.
Merde. Moi, le salarié, il s'appelle, Paul Michel. Paul Michel coûte à l'entreprise 4000 balles. Ça me fait chier qu'il n'y arrive que 2000 à la fin du mois dans son compte. Mais moi, il me coûte 4000 balles. Mais sur des petites PME, quand tu as 10, 12, 15 personnes, où tu doubles les salaires, parce que c'est des salaires doublés, qu'on le veuille ou pas, en charge.
Plus.
Mais à quel moment?
Parce que t'es. Alors, sinon, tu répercuteras sur les prix.
Excuse-moi, juste je finis, Thomas.
Ouais.
En termes d'inflation, avec la période où on est, où l'électricité augmente, où le carburant augmente, où la bouffe augmente, où tout augmente, si tu n'augmentes pas tes prix de vente, tu meurs. Mais tu meurs.
Ouais,
et quand notre invité Loïc Pigeon te dit il va avoir 20%
des boulangeries,
pâtisseries, boucheries qui vont fermer à la fin de l'année, moi je vous le dis, il va avoir 31 décembre, et je vous l'ai dit en tout début d'émission. Et on reparlera de ça en 2023. Il va avoir les bilans de fin d'année. Il va avoir une casse. Il va avoir un fracassage d'entreprise terrible.
Non. Le problème, Mehdi, c'est que tu prêches pour ta paroisse. Et il a raison.
Sur majoritairement, la France.
Non, 50% des salariés sont dans des entreprises de taille intermédiaire, plus de 250 salariés.
C'est des PME.
30% sont des entreprises de plus de 5000 salariés.
Donc majoritairement, les gens sont dans des PME.
Non, mais il y a plein d'entreprises qui crachent du pognon de dingue, qu'ont vu les salaires des patrons qui n'ont pas augmenté au rythme de l'inflation, mais bien plus ces dernières années, et qui n'ont pas augmenté leurs salariés. Donc moi, je suis d'accord avec Mehdi. Attention, faut bien faire la différence entre les grandes entreprises et les petites PME ou les très petites entreprises qui, elles, ont beaucoup moins de marge de manœuvre. Mais là-dessus, on est entièrement d'accord. Mais le sujet est global. On peut pas faire comme si les salaires avaient augmenté fortement. Aujourd'hui, quelqu'un qui a Bac plus 5, il gagne moins en pouvoir d'achat qu'il y a 15 ans. Ouais, c'est pas normal, ça. Il arrive sur Paris, il a fait 5 ans d'études, il vit dans un studio ou un 2 pièces, et son pouvoir d'achat a diminué. Mais il y a quand même un problème.
Mais le problème, c'est que.
Non, mais la France, c'est pas que des PME. Faut arrêter ça.
Mais résumer le problème de cette pénurie de main-d'œuvre, au niveau du salaire, à mon avis, c'est une erreur. Je pense que, effectivement, ces métiers sont fuis aujourd'hui pour aussi d'autres raisons, parce que les gens ne veulent plus des horaires décalés, ne veulent plus travailler le week-end. Voilà. Pourquoi on ne trouve plus de messages généralistes?
Au salaire.
Je termine. Pourquoi on trouve plus de messages généralistes le week-end? C'est pas une question de salaire. Ils sont bien payés, les messages généralistes, même s'ils pourraient être mieux payés. D'ailleurs, ils ont fait grève pour. Mais parce qu'ils ont plus envie de bosser le week-end. Parce qu'en plus, c'est une profession qui s'est féminisée. Il y a la vie de famille, etc. Les gens veulent pas sacrifier certaines choses. Donc, le salaire, à mon avis, sincèrement, tu te trompes parce que moi, je connais des restaurateurs qui proposent maintenant 3 000, 3 500 euros à des serveurs. Ils ne trouvent pas. Ouais, ils ne trouvent pas, Thomas. Alors, pardon. Après, ils peuvent pas changer.
Maintenant qu'il y a la loi, ils ne peuvent pas changer non plus.
Leur métier, c'est-à-dire qu'il faut forcément
dans mon établissement, t'es venu dans mon établissement cet été, tu as bien vu que je montais, j'ai beaucoup de personnel, tu as bien vu que je manquais encore de personnel, que même moi je travaillais, que je faisais, que je courais, que je posais, que je, tu le vois par toi-même. Celui qui touchait le moins dans mon établissement cet été, pourtant c'est un été, et on ouvre à 15h, on ferme à 2h du matin, c'est des équipes différentes, il était à 2008-2009. Thomas, t'as pas besoin de qualification. Je suis désolé, tu n'as pas besoin de qualification. Alors qu'un professeur d'éco ou un médecin, ou une... il a fait des études, le mec. Il a fait bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7. Et ce type-là, généralement, il va toucher combien?
Le COVID va toucher combien?
Mais là, ce qu'on te dit, regarde le sujet, Thomas. On te dit, tous les métiers accusent actuellement, et c'est pour ça qu'il y a justement cette pénurie
de Marianne.
Donc c'est pas à cause des petits patrons.
Marianne Soubry.
Excuse-moi, Marianne, je suis désolée.
Non, mais je vous ai les trois depuis tout à l'heure. Oui, alors en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a le salaire, c'est une évidence, mais il y a aussi les conditions de travail, et ça aussi, c'est une évidence. Et tant que les patrons ne seront pas remis en question sur les conditions de travail qu'ils offrent à leurs salariés, ils auront du mal à recruter. Moi, souvent, ce que j'ai entendu quand même de la part de certains patrons, c'était de dire « Ah oui, mais je n'arrive pas à recruter, donc les gens sont des feignants. » À un moment, il faudrait peut-être se poser la question de savoir si ce qu'on propose, il y a le salaire, mais est-ce que ce qu'on propose en termes d'horaire de travail, de conditions de travail, est-ce que c'est acceptable?
On peut pas télétravailler
sur un chantier. D'accord, mais
oui,
tu peux.
C'est ça que les gens veulent. Maintenant, ils veulent.
Il n'y a pas que les chantiers et la restauration où ils ont du mal à recruter. Je te prends un exemple. On en parlait hier, tu vois, chez moi. Même dans une boîte, même moment d'embauche. Un homme, une femme sont embauchés au même moment. D'accord? Ils ont les mêmes qualifications. Et ben, elle a 4 congés maternité. Et ben, 10 ans après, elle a eu 4 congés maternité. Elle gagne 30% de moins que l'homme qui lui problème, a pas fait ça. Les, ben, non, c'est
l'égalité
pas.
L'égalité entre les hommes et les femmes.
Eh ben oui, mais tu vois, non, mais tant que les employeurs, ne rémunéreront pas comme il faut, tant qu'ils donneront des conditions de travail qui sont pas forcément bonnes, et ben, mais, on se retrouve.
Marianne, sur un chantier, dans un restaurant, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Forcément, ce sont des métiers plus payer difficiles
mieux,
que d'autres.
Payer mieux, c'est déjà.
Ça fait des années qu'ils sont mal payés. Sont... Comment tu peux créer une filière intéressante?
Ouais. Eh bien, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, ils ont été revalorisés.
Non,
c'est
aujourd'hui, mais ça va prendre un certain temps. Si ça faisait... Non, mais quand tu... Pendant... par exemple, je te donne un exemple. Des métiers qui payent très bien. La finance paye très bien. À un moment, la finance payait tellement bien que dans toutes les grandes écoles et universités mondiales, t'avais 80% de génération qui voulait faire de la finance. Ah, pourquoi? Parce que ça payait extrêmement bien. L'hôtellerie, Ça fait des années que ça paye très mal, que c'est un métier difficile. Et tous ceux qui bossent dans ce métier vous le diront. Et bah, quand vous voulez, vous avez des gens qui ne veulent plus travailler dans l'hôtellerie. Et donc, à un moment, vous avez des pénuries.
Alors.
Et c'est pareil pour la petite enfance. La petite enfance, ça paye mal. Il n'y a plus d'investissement avec la baisse de dotation aux collectivités locales. Donc, il n'y a plus de gens qui veulent bosser dedans. Et à un moment, il n'y a plus.
C'est public, hein,
Oui, mais d'accord. OK, très bien. Mais je te donne un exemple.
C'est donc,
quand vous avez des mauvais salaires dans un endroit, vous allez avoir une pénurie au bout d'un moment, c'est sûr.
Est-ce que c'est la faute des patrons mauvais payeurs? Le GG7 et match, là, la pénurie de main. On pensait que ça irait mieux au sortir de l'été. Non, au mois de décembre, on est encore en plein dedans. Alors, une équipe dit non, mais dit Olivier. Une équipe dit oui, Marianne et Thomas. Et vous, comment avez-vous tranché? En faveur de qui? On verra ça dans 3 minutes.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG en direct. Comme tous les jours, on vous attend au 32-16 pour réagir, pour débattre. Aujourd'hui, l'avocate Marianne Soubry, le professeur d'économie Thomas Porcher et le chef d'entreprise Mehdi Guézard. La question que l'on se pose, c'est, alors qu'on est sur la période de fête, on voit qu'on manque encore de bras dans des secteurs d'activité qui, là, ont besoin de personnel pour faire presque, pour certains, la moitié de leur chiffre d'affaires. Hein. sur la période des fêtes. Alors justement, est-ce que c'est la faute des patrons qui sont de mauvais payeurs? Une équipe qui dit oui, Marianne et Thomas, une équipe qui dit non, Mehdi et Olivier. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous votez sur les réseaux sociaux et on est à un score de... On regarde 65-35.
C'est serré, mais c'est des magots.
C'est pas si énorme que ça.
On tape
finalement.
Sur le riche, on tape sur celui qui a le 4x4, on tape sur celui qui va en vacances, on tape sur celui qui va.
Je peux apporter un élément factuel. 35, sans doute qu'effectivement, il y avait des rattrapages salariales à faire, et ça, on sera tous d'accord. Mais il y a une étude du cabinet Deloitte qui dit que les enveloppes accordées aux augmentations salariales dans les entreprises vont atteindre des niveaux historique. Ouais, bah il y a les NAO, les fameuses augmentations individuelles, enfin négociations autour des salaires annuelles, qui commencent, annuelles, obligatoires, qui vont quand même montrer qu'il y a de fortes augmentations dans toutes les entreprises, sauf peut-être celles qui sont en très grande difficulté. Et si tu ajoutes, on dit que ça va être en autour de 4,5%.
Ouais, je te rappelle qu'on a 6% d'inflation.
Oui, mais justement.
Ça, je te rappelle quand même.
Attends, laisse-moi terminer la démonstration, merci. Donc, en gros, c'est en moyenne 4,5% pour les salaires, ce qui est pas mal. Bien. Tu ajoutes la prime Macron, qui a été augmenté et qui va être accordé par beaucoup d'entreprises, mais t'arrives quasiment à l'inflation. Donc en 2023, c'est ce que dit cette étude, les salaires devraient s'aligner sur l'inflation. Donc c'est plutôt une bonne chose, Thomas. Effectivement, il y a eu sans doute les années précédentes, pour plein de raisons, une modération salariale qui était un peu la norme. Là aujourd'hui, les choses sont en train de changer.
Oui, mais c'est pas
donc,
parce que ça
celui
change.
Celui qui continuera à refuser de bosser, ça sera pour d'autres raisons. Et moi, les autres raisons, c'est quoi? C'est télétravail, c'est maintenant le travail pour moi, c'est pas la valeur principale, ce qui compte, ce sont les loisirs, la famille.
Mais les gens, il faut bien qu'ils vivent. Tu peux pas rester chez toi toute ta vie.
Moi, je connais des gens qui sont prêts à vivre avec peu en disant mais qui quittent Paris. Donc déjà, ton loyer divise par
d'accord,
deux.
D'accord, ok.
Voilà, quitte Paris.
Mais il faut bien que tu vives à un moment.
Mais ils sont pas forcément dans les secteurs en tension.
Vive avec des petits salaires, dans des boulots pas trop fatigants.
Si ça leur plaît, il est où le problème? Tu vois ce que je veux dire?
Ça n'a rien à voir avec les salaires. Je veux dire, c'est une question de mentalité.
Oui, mais attention.
Avec le Covid, on change.
Avec le Covid, Olivier, ça c'est arrivé avec le Covid. C'est arrivé à partir de 2020. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu un débat, en tous les cas, sur l'augmentation des salaires, qui est en réalité là depuis...
Ils ne reviendront jamais parce que tu leur fils 5 000 euros.
D'accord, mais le débat sur le fait que les salaires ne sont pas assez élevés dans l'économie, il était supérieur déjà à l'Hexagone, puisque encore une fois, j'ai dit Draghi, il avait lancé ce grand truc quand il était à la BCE en disant il y a un problème de salaire en Europe. Donc c'était des débats quand même qui étaient transfrontaliers. Et puis encore une fois, des économistes comme Artus, etc.
Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent la grande démission, comme on l'a
tout
appelé.
Fait.
Et la grande flemme aujourd'hui.
Ouais. La grande flemme. Et qu'il y a d'autres choses.
Non, mais t'as raison. Là où je rejoins Olivier, c'est que ça s'est passé aussi dans des pays où les salaires sont beaucoup plus faibles et où il n'y a pas cette différence entre le brut et le net, comme l'a dit Mehdi. Les États-Unis. Oui. Ce serait un paradis finalement pour Mehdi. Ouais. Et dans ce pays-là, il y a eu une grande démission également.
Donc
il y a d'autres facteurs supplémentaires.
Les conditions de travail, c'est ce que je disais.
Pas seulement, aussi une idée que le travail, c'est pas tout dans la vie. Et que,
mais c'est très bien comme idée. Moi, je suis ravie.
Quand tu vas devoir payer les études de tes gamins, c'est bien à 25 ans.
Attendez, là, on s'écarte du sujet. La question du GG c'était match, c'est pénurie de main-d'œuvre, la faute des patrons mauvais payeurs. D'accord. En quoi les patrons sont mauvais payeurs? Expliquez-moi. Moi, je veux recentraliser le débat. Arrêtez de me sortir grande démission.
Non,
mais excusez-moi. Arrêtez de me sortir la grande démission, le truc, le Covid.
Mais Mehdi,
pourquoi les patrons sont des mauvais payeurs?
Regarde,
on est les seuls payeurs.
Mehdi, regarde les sociétés de chauffeurs de bus, la RATP,
la SNCF. Des primes de 800 euros pour recruter.
Ils n'arrivent pas à recruter.
Parce que ils donnent. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi ils n'arrivent pas à recruter, Marianne?
Donc, ils n'arrivent pas à recruter parce que le salaire et les conditions de travail ne sont pas suffisantes pour que les gens aient envie de travailler.
Les conditions de travail à la RATP, Marianne?
Alors, je te prends les chauffeurs de bus.
Tu sais que si tu me dis ça, je sors du plateau en courant, tu vas me dire qu'à la RATP, ils n'ont pas de bonnes conditions de travail. Ils travaillent 3 jours par semaine ou allez maximum 3 jours et demi par semaine. Thomas, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, tu vas pas me dire qu'à la RATP ils ont pas de bonnes conditions de travail.
En tout cas, de moins en moins bonnes.
Tu vas pas me dire qu'à la SNCF ils ont pas de conditions de
moins en moins bonnes.
Tu vas pas me dire qu'à Air France
pour les nouveaux recrutements c'est les mêmes que les anciens.
Non, faut pas comprendre, c'est pas les nouveaux, c'est ceux qui sont avec.
Là, on s'est calmé. Attention, les nouveaux n'ont pas le même statut que les anciens, donc c'est pour ça que
tu me dis que des femmes de ménage qui travaillent à 5h du matin
matin ou 4 heures du matin qui sont payés 900 euros. Ça, c'est pas normal. Je te dis oui. Tu me dis que des agents d'entretien extérieurs ou des maçons qui sont sous le froid. Oui.
Non, tu me dis pas les gens de la RATP.
Thomas, interroge n'importe quel recruteur. Il va te dire quoi? C'est que la première question, c'est pas sur le salaire, c'est à quelle heure je termine?
Bien sûr.
Est-ce que je travaille le week-end? À quelle heure je commence? Est-ce que j'ai des RTT? Est-ce que j'ai des vacances? Est-ce que je peux télétravailler au moins deux jours?
Mais tant mieux. Non, mais qu'est-ce que tu voulais, Olivier? Non, mais tant mieux. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais que les gens, en fait, ils soient esclaves de leur travail? Tu voulais qu'ils aient que ça comme horizon? Moi, je suis ravie que les gens, ils aient d'autres ambitions dans la vie que leur travail.
Alors, attendez, je voudrais qu'on passe par le 32-16. On passe par le 32-16. Retrouvez Jean-Bernard de Gironde. Bonjour, Jean-Bernard.
Oui, bonjour. Écoutez, j'ai pas la prétention de renverser la tendance, mais je viens en secours de Mehdi.
Merci Jean-Bernard, je vous aime.
Je vais essayer d'être rapide puisque je pense que j'ai peu de temps. Moi, je vais vous parler du bâtiment et des travaux publics. Alors déjà en matière de rémunération, vous savez que tous nos salaires, notre grille de salaire, déplacement et autres sont gérés avec des commissions paritaires, paritaires qui avec une représentation des employeurs, que ce soit CAPEB, BTP, les SCOP, les TP et tous les syndicats. On se met autour d'une table en janvier, en juillet, et on essaie d'aller au mieux et avec beaucoup de volonté et de discussion et de respect pour aller sur des salaires, évidemment, en évolution. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc ça, c'est une première de choses. Et c'est vrai qu'on a la prétention de relever un petit peu les salaires pour justement, parce que notre obligation dans le bâtiment, c'est de garder l'effectif. On manque d'intelligence, on manque de main-d'œuvre. On a besoin véritablement de personnel. C'est pas en ne jouant pas le jeu. Alors, bien entendu, je suis d'accord avec vous. Il y a toujours des comptes dans n'importe quelle filière.
Exactement.
Qui ne respectent pas.
Oui.
Mais il faut pas généraliser. Voilà. Moi, je veux vous parler aussi d'un aspect un peu compliqué que l'on vit en ce moment. Voilà. C'est que, pour parfaire et pour appeler véritablement les jeunes et moins jeunes de venir travailler dans le bâtiment, on fait pas mal de communication. Je travaille actuellement avec les GEC, les groupements d'employeurs pour l'insertion et les qualifications. En deux mots, je vous dis ce que c'est. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de formation et vient rentre chez nous au groupement d'employeurs pour l'insertion et les qualifications, on lui apporte véritablement une rémunération, une rémunération déjà du haut SMIC avec des avantages quand il est mis à disposition des conventions collectives et bien évidemment on le met dans un cursus de formation dans nos centres, fédérations compagnoniques ou autres, ou centres de formation du bâtiment. On les oblige pas à faire une formation longue, c'est-à-dire deux ans en contrat d'apprentissage, mais on a la possibilité de faire des titres professionnels sur 6 mois, 7 mois, 8 mois, jusqu'à 9 mois. Parce que pour rentrer dans une entreprise du bâtiment, il faut connaître les règles, il faut connaître la sécurité, et puis il faut connaître un peu ce métier-là. Donc c'est la possibilité pour ces gens. Je vous parle de ça parce qu'on n'y arrive pas à les faire rentrer dans ces choses-là. Ils n'ont pas de formation, on leur propose le SMIC. Ils ont un seul employeur, c'est le groupement. On met une semaine en formation et on a des entreprises partenaires pour les accueillir pendant les 3 semaines.
Donc les dispositifs existent, ils sont là. Et ce que vous dites, c'est que en fait, après, il faut que chacun y mette du sien, il veuille y aller, quoi. C'est ça, en fait.
Alors là, avec les GEC actuellement, surtout à Nouvelle-Aquitaine, puisque j'y suis, on travaille avec le comité olympique et sportif. C'est-à-dire qu'on se présente dans toutes les associations sportives, puisque qui a la première problématique d'emploi des fois, qui c'est qui la révèle, c'est le président d'une association amateur, oui. Boxe.
Et alors, c'est un problème de salaire, voilà. Ou pas?
Mais ce n'est pas un problème de salaire parce que on ne trouve pas les personnes et elles ne viennent pas justement chercher l'information pour dire
Jean-Bernard,
vous, quel est le salaire et qu'est-ce que je dois. Voilà. Et alors en plus, juste pour finir, excusez-moi, c'est que en plus notre obligation dans les groupements d'employeurs, c'est de les suivre, c'est-à-dire apporter véritablement, répondre aux problèmes de mobilité, répondre aux problèmes de logement quelquefois. Voilà. Et on a un panel extraordinaire, mais on a du mal à les faire venir pour leur démontrer.
Jean-Bernard, voilà. Une question s'il vous plaît, une question à vous directement. Vous qui êtes aussi patron dans le BTP, vous savez que le BTP est plus taxé que les autres corps de métier, ça tout le monde le sait, plus chargé que les autres corps de métier. Pour un salaire de 2000 euros pour un artisan classique chez vous, combien ça coûte à l'entreprise? 2000 euros net pour l'employé.
2000 euros. Alors le problème, c'est que nous, on a aussi des cotisations dans la caisse des congés payés qui la
pro congé payé, la pro BTP, il y a la mutuelle, après il y a la congé payé intempérie et tout ça. En tout, il y en a pour combien?
En gros,
2000 euros de salaire net dans sa poche. Combien coûte une personne qu'on paye 2000 euros de net?
2000, il y a 1300, 1400 avec les congés payés
interrégional.
Voilà.
Ça fait 3004, donc ça fait quasiment. 3004, voilà. Vous préférez les donner directement à votre salarié que à droite ou à gauche, on est bien d'accord.
C'est des caisses. Ouais,
mais attends, c'est des salaires différés. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. Attends,
mais non, c'est pas n'importe quoi.
C'est de l'économie du commerce. Non, je vais vous dire une chose. Vous allez chercher quoi? Macron a baissé. D'accord, ok.
Il faut que le net, c'est fini.
Vas-y, demande. On a très bien compris, aux États-Unis, c'est le cas, et aux États-Unis, ils ont le même problème qu'ici. Donc, voilà, ton exemple tombe à l'eau. La réalité des faits, c'est quoi?
Parce que
quand tu regardes la part des salaires dans les pays, a chuté très fortement à partir des années 80. Ça, c'est une réalité. Et l'autre réalité, quand tu regardes le différentiel, alors il n'y a pas que des PME, il n'y a pas que des auto-entrepreneurs qui ne peuvent pas recruter. Quand tu regardes le différentiel entre le salaire d'un patron d'une grande entreprise et le salarié moyen, il était à 40, le différentiel, un facteur 40 dans les années 50-70. Aujourd'hui, il est à 200, 300, 400 fois. Donc il y avait bien eu un problème
Thomas,
à un moment.
C'est fini, merci à Jean-Bernard.
Payer 5000 euros à serveur, s'il peut pas télétravailler, partir à 19h et avoir tous ses week-ends, il ne viendra pas.
Merci à Jean-Bernard. Alors, la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que c'est la faute des mauvais patrons? Est-ce que c'est le patron mauvais payeur? C'est oui, 64-36.
Dans toute sa splendeur.
Allez, le débat continue sur RMC, RMC Story avec Estelle Denis. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. Nous, on va parler de cette aide carburant de 100 euros pour les 10 millions de Français les plus modestes. Est-ce que l'État a raison de sortir une nouvelle fois son chéquier? Vous nous appelez au 32-16. Ce sondage de l'UNEDIC ce matin, un Français sur deux estime que les chômeurs sont responsables de leur situation. Un chiffre en hausse de 7 points en un an. D'accord ou pas d'accord avec eux?
Quand il y a plein d'emplois, oui, c'est la question après se pose, c'est pour ça.
Exactement. Et puis le maire de Marignane qui veut expérimenter le port de l'uniforme et le chant de la Marseillaise deux fois par semaine à l'école primaire. Bonne ou mauvaise idée?
Militaire.
Écoutez, je ne sais pas, c'était un maire d'hiver droite, en tout cas.
Marignan, inconnu, mais qui va être connu.
Il y a la Légion là-bas à Marignan.
Oui, enfin, c'est pour tous les enfants quand même. C'est pas que les enfants de.
Oui, non, mais c'est pour savoir dans quel type de ville.
Dans quel réservé aux enfants légionnaires.
Non, ça, dans quel type de ville on est aussi. C'est une ville à fort.
Marignan, il y a le
fort ancrage militaire aussi.
Tout à fait. C'est bien de
le. Venez réagir avec Estelle au 32-16. Garde à vous pendant 3 heures avec l'équipe d'Estelle Midi et le général Denis.
Très bien.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.